Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce forum de la presse. L'armée malienne est tombée dans une embuscade. C'était mardi dernier entre Nampala et Dogofri, un bilan d'une dizaine de morts et des blessés. Au moins un mort, neuf blessés dans une attaque contre le super camp de la MINUSMA également à Tombouctou. La grève de l'enseignement semble s'acheminer vers une fin. Les syndicats du secondaire et du fondamental ont enfin trouvé un accord. Toutefois, les enseignants du Nord continuent avec le mouvement de la grève ainsi que les enseignants du supérieur. Fête du travail au Mali, un jour à peine le pays célèbre également la journée mondiale de la presse, on en parlera. Si le temps nous le permet, nous parlerons également de football dans cette émission. Nos invités dans ce forum de la presse sont Togola Hawa Semega de Kunafoni.com, Yuba Konate du Zenith Balé et Mamadou Djadje Sako d'Isax de RFM. Je suis Ousmane Djadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Salim Diouara.
Le Grand Dialogue.
9 soldats maliens ont perdu la vie mardi et 5 blessés dans une attaque dans la région de Ségou, dans le centre du Mali, a annoncé donc le gouvernement malien. Le gouvernement qui réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme. Écoutons ensemble cette analyse de Ibrahim Maïga, il est chercheur à l'ISS Dakar.
On est devant une menace asymétrique, donc c'est pas une menace classique. On assiste à des attaques effectuées la plupart du temps par des petits groupes, en bande de 5, 10, 20 parfois, lourdement armés, et qui attaquent des positions parfois statiques ou mobiles. Parce qu'on l'a vu, dans certains cas, c'est des casernes ou c'est des camps militaires qui sont attaqués. Parfois facilement, et ça on le déplore, parce que de l'autre côté, il y a probablement une défaillance. Il n'y a pas une extrême vigilance de la part des forces armées maliennes. Il faudrait peut-être voir de ce côté-ci. Mais d'un autre côté, il y a aussi des attaques mobiles sur des troupes qui se déplacent d'un point A à un point B. Et ça, malheureusement, l'une des façons les plus efficaces d'y faire face, c'est non seulement le renseignement, c'est-à-dire être capable de sentir la menace ou en tout cas de prévenir la menace avant qu'elle ne s'abatte sur vous, et aussi la capacité d'être très vite secouru ou en tout cas ravitaillé et épaulé par des force.
Togola Awasemega de Kunafoni.com, est-ce que la communauté internationale et le gouvernement du Mali sont à bout de souffle dans cette lutte contre la terreur?
Je dirais que c'est très difficile parce que ça devient de plus en plus récurrent avec les attaques incessantes. Finalement, on s'est dit qu'on n'est plus en sécurité nulle part. Donc c'est assez difficile. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est une implication de la population. La population doit s'impliquer particulièrement pour aider en fait les forces de sécurité à pouvoir mieux mener cette lutte contre le terrorisme.
Mais est-ce que justement cette population-là a confiance aujourd'hui en ces forces armées et aux forces internationales qui sont souvent perçues comme des forces d'occupation?
Oui, alors paradoxalement, quand on voit de loin, on dirait que la population n'a pas confiance, mais d'après une étude qui a été menée par le CONACIPAL, durant l'année écoulée, il s'avère, selon les résultats, que la population a confiance aux forces internationales sur place, notamment la MINUSMA, parce que déjà ils sont là et ils aident la population à aller de l'avant, et même si parfois c'est assez difficile, certains qui se plaignent beaucoup de l'efficacité réelle de ces forces en place.
Merci Mamadou Djadje Sako de RFM. On a vu également qu'il y a une vingtaine de terroristes qui ont été tués ou arrêtés par la force Barkhane. Est-ce que vous pensez que c'est une espèce de réponse justement de ces forces qui sèment la terreur en attaquant à tout bout de champ les forces armées?
Bonsoir monsieur Touré. Il faut reconnaître tout de suite l'analyse que nous avons écoutée avec le chercheur. Il parle de menace. C'est ce qu'on a l'habitude de dire sur votre plateau ici, qu'à chaque fois qu'il y a une crise, si la crise elle n'est pas cernée, elle devient une menace. Et quand il y a la menace, s'il n'y a pas de riposte, il y a attaque. Quand il y a attaque, il y a instabilité. Vous savez, aujourd'hui, il est tellement difficile de parler de cette situation que le Mali vit pour ne pas se voir poursuivi d'incitation à une désobéissance des forces armées, parce qu'il a parlé de renseignement. Qui a le renseignement ? Le Mali aujourd'hui n'est pas le seul pays aujourd'hui à faire face à cette attaque. On a le monde entier qui est là et qui détient le renseignement. dans son analyse, il parle des attaques d'un point A à un point B. Comment ces bandits, ces terroristes, arrivent à savoir que l'armée malienne se déplace dans, sur son territoire d'un point A à un point B? Et cependant, il y a d'autres qui sont présents au Mali, qui ont le droit de se déplacer sans pourtant que les Maliens le sachent, et qui peuvent se déplacer sans les Maliens. Et quand vous voyez, si vous vous approfondissez, je parle de la France qui a signé un accord de défense avec le Mali. Quand vous approfondissez l'analyse, vous vous rendez compte que, comme l'a dit madame, c'est vraiment récurrent, c'est révoltant. Parce que aujourd'hui, le mandat quand même de l'aménagement, je pense qu'il a été doté, a été augmenté, modifié. On ne doit plus laisser que le Mali soit attaqué.
Mais l'aménagement qui n'a toujours pas de mandat pour lutter contre le terrorisme.
Mais si. Si. Parce qu'aujourd'hui, on se trouve, il a parlé d'une guerre asymétrique. On est en face de quoi? Qui parle de guerre asymétrique là? C'est le terrorisme, c'est toutes les qualifications qu'il donne. Donc, on doit savoir qui est avec le Mali et qui contre le Mali. C'est pour cela, vous-même, dans votre introduction, vous avez posé la question à la concert de savoir si les Maliens, moins aujourd'hui, ne pensent pas que c'est une occupation. Ce que le Mali a enregistré de 2012 à nos jours, c'est pas ce que nous avons connu lors de la colonisation qui était là. On est venu pour vous coloniser. Chaque jour, on fait les frais. Si on vous déclare neuf morts, il faut multiplier par 10.
C'est pas un peu exagéré, Youba Konaté, 9 morts multipliés par 10, pas un peu tiré par les cheveux?
Oui, je sais pas trop, hein. C'est vrai que mais moi, peut-être que oui, c'est, en tout cas, ce qu'il voudrait dire le grand frère, c'est peut-être qu'on ne donne pas toujours le bilan exact. Et par rapport à la récurrence des attaques, hein, ce que moi je voulais dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la guerre asymétrique. Et tout le monde reconnaît, même les plus grands pays du monde sont confrontés. Quand ils sont confrontés à cette situation, c'est très difficile à gérer. Mais pour ce qui est de notre part, c'est qu'il y a assez quand même de légèreté souvent dans ces attaques-là. Et c'est ce qui surtout et ce que nous pouvons déplorer. Parce que c'est ça que ça parlait de la, comment dirais-je, de la fuite des informations. C'est-à-dire un convoi qui se déplace pour le ravitaillement. Bon, ça c'est des trucs quand même qu'on peut jurer de façon trop, parce que la dernière attaque, vous avez vu, ils avaient mis une mine d'abord, c'est quand la mine a sauté, qui a explosé, qui et par la suite ils sont venus et, comment dirais-je, achever le reste du truc avec des rafales. Donc ça, c'est, je pense qu'avec une très bonne gestion, avec des mesures strictes sur l'information au niveau des convois qui se déplacent, ça va être très compliqué de ces gens-là de savoir à la minute, à l'heure près, le trajet des convois de ravitaillement, par exemple. Donc moi, je pense qu'il y a certaines habitudes qu'il faut commencer au niveau des forces armées et de sécurité et à laisser de certaines pratiques et à prendre d'autres, de nouvelles. Je sais, par exemple, quand vous prenez la région de Mopti, la dernière attaque qui a failli créer tout le bouleversement dans la région de Mopti, c'est qu'il a été avéré que c'est, pour parler de, comment dirais-je, de la collaboration de la population, c'est un jeune homme qui avait donc donné des informations aux gendarmes concernant les mouvements des activistes islamistes dans la zone. Mais nos hommes, après, se mettent dans un véhicule en tenue pour aller voir le jeune homme pour soi-disant prendre des compléments d'informations. Et du coup, il venait de mettre la vie de ce jeune homme en danger. Parce que tout le monde a compris que c'est lui qui avait filé les informations. Donc, avec sa maman, ils étaient obligés de l'évacuer tout de suite. Et mais malgré tout ça, pour le reste de sa famille, ça crée des problèmes. Mais vous imaginez tout un véhicule rempli de gendarmes aller vraiment dans la famille du jeune homme pour complément d'information. Ça c'est quand même
couvre ces événements.
Voilà, ça c'est vraiment des légèretés.
Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que un pays en pleine crise, tout à l'heure, peut-être on en parlait là, de cette semaine de la liberté de la presse, on nous a parlé, on nous a rappelé tellement nos devoirs, nous a tellement rappelé ce que nous devrons faire et comment nous devrons nous comporter en période de crise, en période de guerre. Moi, j'ai dit, le Mali est en guerre, bien vrai que même si cette guerre-là n'est pas encore, on n'a pas eu le courage politique de la déclarer. Le Mali est un pays en guerre. Et comme l'a si bien dit, comment vous pouvez comprendre qu'une telle guerre est dans notre pays qui n'est couverte par aucun média malien? Et pourtant, dans une telle guerre, il y a une question de renseignement et d'information. L'information, c'est quoi? C'est les médias qui devraient être là, dire à nos populations comment se comporter, comment aider, comment haranguer et commander nos forces armées. Mais malheureusement, dans notre pays, tout le temps, c'est eux qui préparent les informations, on nous donne tout de suite. Vous n'avez aucune preuve que, par exemple, quand moi je vous ai dit qu'il y a eu 9 morts, qu'il faut multiplier par 10, vous n'avez pas l'information.
La source gouvernementale,
on vous la donne. Mais le média est national. Leur thème n'est jamais sur le théâtre des opérations.
Merci. On est d'accord, Thomas. Togola Wasimega, près de 500 morts, 500 militaires maliens tués de 2012 à maintenant. Est-ce que réellement les solutions appliquées jusqu'ici sont les bonnes?
Très sincèrement, je ne pense pas que les solutions appliquées soient... Je pense qu'il faut vraiment songer à une nouvelle stratégie pour contrer ce problème-là. Et surtout, moi, je pense surtout qu'il faut miser sur la population. C'est extrêmement important parce que c'est sur la population, l'aide de la population qui peut faire changer les choses. Parce que Yuba a parlé d'un cas tout à l'heure. C'est extrêmement important que les forces armées fassent attention. Ceux qui donnent les sources d'information doivent être vraiment cachés. On ne doit pas les connaître. Et parce que quand ces situations arrivent, c'est clair que ça crée une résistance et la peur s'installe au sein de la population. Donc c'est sur la population qui peut aider ce changement de situation.
Merci. Alors on a également Tombouctou, hein, où le camp de la mission de l'ONU a été attaqué à l'arme lourde mercredi dernier. Un mort, 9 casques bleus blessés, dont 4 dans un état critique. Encore des attaques, Cuba. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question à savoir comment les forces des Nations Unies peuvent nous protéger si elles n'arrivent pas elles-mêmes à éviter les attaques?
Oui, véritablement, il y a véritablement un problème. Parce que vous avez tout de suite effleuré un peu une discussion sur le mandat de l'aménagement. Mais à un moment donné, et surtout au cours de l'année dernière, on avait pensé qu'au renouvellement du mandat, le mandat avait été renforcé. On nous avait dit qu'on n'était pas parvenu à avoir le chapitre 7 qui donnait exclusivement tous les moyens à l'aménagement pour...
On est sous chapitre 7.
Hein. 7. On dit qu'on ne l'a pas. On dit qu'on ne l'a pas.
On dit qu'on l'a pas. Sous, mais il n'est pas appliqué.
Voilà.
Et ce qui m'énerve, surtout quand vous voyez la composition de la mission onusienne, c'est nous. Quels sont les composants de cette mission qui font les frères? Vous trouverez que ce sont nos frères sénégalais, nos frères ivoiriens, burkinabés, tchadiens.
Cette dernière attaque d'ailleurs sur Tombouctou, ce sont surtout les casques bleus libériens qui ont été touchés.
Si réellement la composition de la mission onusienne, on arrivait à la changer, vous allez voir que le chapitre 7 va être appliqué.
Est-ce que justement un mandat plus robuste aujourd'hui pourrait éventuellement être la solution?
Que le mandat reste comme il est tel, si on change la composition. Parce que c'est ce qu'il ne faut pas nous faire croire.
Est-ce qu'il faut des forces plus offensives?
Non, pas plus offensives. Je parle de la composition de la mission même. Il y a combien de Sénégalais, il y a combien d'Ivoiriens, déjà, nous, on a signé un accord de défense déjà avec la France, qui est déjà avec nous, avec Barkhane. Quand j'ai signé un accord avec toi, si je meurs, tu meurs avec moi. Mais c'est moi qui fais les frais. Et pourtant, il y a toutes choses égales par ailleurs. C'est ça le problème. Changeons la composition de la mission onusienne. Vous allez voir que MINUSMA ne sera plus attaqué et qu'on ne va plus laisser également l'armée. Si l'armée malienne se déplaçait avec cette force Barkhane, vous allez voir que ça n'allait pas se produire comme ça se produit. Vous avez vu tout récemment, quand on fêtait, je ne sais pas, quand il y a eu, le sommet Afrique-France, pourquoi la France n'a pas fait les frais? Et hier,
Il y avait assez de sécurité, c'était très sécurisé.
Sécurisé, et pourquoi?
Je pense que c'est cette stratégie, justement, qu'on devrait adopter sur toutes les bandes du territoire.
Non, je ne parle même pas de ça. Quand il y a eu les attaques à Gao.
Les listes sur son territoire, que dire de cela à ce moment-là?
C'est-à-dire que simplement, il y a de sécurité à 100% nulle part dans le monde.
Ça pose le problème de la clarification, parce que c'est toujours le procès qu'on fait à la France. Pour ce qui est de l'attitude de la France par rapport à la situation d'insécurité au Mali, elle n'est pas totalement claire. C'est ce qui est reproché à la France.
La France ne joue pas franchement le jeu avec, comment dirais-je, les Maliens. Parce que nous sommes toujours sur chapitre 7. Vous comprenez que tous les comment dirais-je, les spécialistes.
Monsieur, je vous suggère de revenir continuer cette émission dans quelques secondes.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Pour animer ce forum de la presse dans ce studio avec moi, Togola Hawa Semega de Kunafoni.com, Yuba Konate du Zénith Ballet, Mamadou Diadje Sako Sax de RFM. Yuba Konate, justement, faut-il finalement permettre aux populations d'organiser leur propre défense?
Non, je pense que non. Je pense que non. Vérité, parce que là, c'est avec tout ce qu'on a comme ambiance aujourd'hui dans ce pays, si on permettait à tout le monde de porter des armes, ça va être le chaos total. C'est ce qu'il faut combattre. Nous, on n'a pas d'alternative. Hein. Ce qui nous reste, c'est vraiment de continuer à renforcer notre armée. Mais justement, sur ce plan, on a l'impression que tout ce qui devrait être fait n'est pas fait, justement. Parce que c'est ce qu'on ne comprend pas, parce que le Sax l'a abordé tout de suite. Nous sommes véritablement en guerre. Et depuis 2012, nous sommes en guerre. Et depuis 2012, nous avons perdu près de 500 hommes. Moi, je suis sûr que si on s'y était mis véritablement, on aurait pu vraiment ne pas atteindre ces chiffres-là. Parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. On a l'impression que nous donnons l'impression que nous vivons dans un pays où tout est bon, tout est calme, alors que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment véritablement que l'on réagisse.
Arrêter ou tuer une vingtaine de terroristes.
Oui. Bon, ça c'est
avec les forces armées maliennes.
C'était conjointement justement.
Oui,
avec
mais il faut le voir. L'accord de défense au Mali.
Oui, il y a eu quand même l'opération Panga sur la bande frontalière.
Ça dit que ça c'était plus avec les Burkinabés qu'avec les Maliens.
Non, il y avait les Burkinabés, les Maliens et également le Barkhane.
Oui, ça dit que. Un an ou presque deux ans après la signature de l'accord de défense. Mais c'est le moment où jamais où nous avons besoin d'avoir les dividendes de cet accord-là aujourd'hui. Vous imaginez, on ne comprend même pas ce qui se passe.
Je peux pas
alors, parce que depuis 2012, avant l'accord, avant la signature de l'accord,
Togola Awasemega qui n'a pas beaucoup parlé, est-ce qu'on connaît le contenu justement de cet accord de défense?
Non, justement, je pense que ce contenu-là doit être assez clair.
Divulgué.
Voilà.
Qu'on ait le courage de bien expliquer.
Et tu avais posé une question tout à l'heure concernant le renforcement de la défense de la population. Je pense que ça devrait se faire, mais... pas au sens de détenir des armes à feu ou quoi. Je pense que ça devrait se faire en sensibilisant la population, en faisant connaître à la population comment est-ce qu'il faut se protéger en cas. Parce que, par exemple, s'il y a quelque chose, comment est-ce qu'il faut faire, quelles sont les attitudes à adopter, les renseignements à donner.
Mais malheureusement, jusque-là, ce n'est pas les populations qui sont souvent attaquées. Hein. Les islamistes, dans tous leurs trucs,
La population n'est pas souvent attaquée.
Ce que moi je voulais vous dire, c'est que la population ne peut être dans ce schéma qu'avec l'information. Et tout de suite, quand le confrère expliquait, à chaque fois que vous donnez l'information, Djadje que lui soit Peul, et que de l'autre côté, c'est les Bambara, ils vont faire croire que si, c'est comme peut-être les Peul qui s'opposent aux Bambara.
Mais justement, c'est
toute la délicatesse de la question.
Dans les conflits communautaires qui commencent à prendre de l'ampleur dans le sang. Alors, monsieur, je vous invite donc à parler d'un autre thème. C'est la fin de la grève des enseignants des écoles du fondamental, du lycée. Le supérieur ainsi que les enseignants du Nord continuent toutefois avec la grève. C'est après une rude tractation que les deux parties sont arrivées un peu à accorder leur violon très tard dans la soirée de mardi. Togola Awasemega, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà un autre succès de ce tout nouveau gouvernement appelé Idrissa Maiga?
Oui, c'est un succès, il faut le reconnaître, mais il faut faire extrêmement attention à vraiment pérenniser ces acquis-là, parce qu'il ne faut pas juste...
Même si les enseignants du supérieur continuent également les enseignants du Nord.
Du Nord, justement, et c'est surtout ça le problème. Il faut faire vraiment trouver une solution adéquate à cela, parce que les grèves à répétition, ça crée aussi un blocage au niveau, que ce soit du système éducatif. Or, quand le système éducatif est bloqué, c'est tout le système du pays qui est bloqué.
Merci. Mamadou Diadje Sako, est-ce que c'est un autre succès justement
non,
à l'actif
pas du tout.
Qu'est-ce qui a changé dans les méthodes d'ailleurs?
Abdoulaye Drissa, il n'est pas un magicien. Tu sais que je pense qu'à ma connaissance, à son arrivée, le Mali n'a pas changé de capacité financière, le Mali n'a pas augmenté de PNB ni de PIB. Or, au départ, c'était une stigmatisation en essayant de faire croire à tout le monde que l'État n'a pas les moyens, Et lui, déjà, il n'a même pas un mois. Et comment, par quel bac magique, lui, il arrive à tout transformer? Donc, moi, je pense que c'est du théâtre. Il est temps qu'on prenne le Malien au sérieux. Quand vous voulez gouverner, c'est l'anticipation. Et les mêmes causes entraînant les mêmes effets, vous allez vous rendre compte que c'est toujours le même effet d'entraînement. Pour qu'il y ait au moins un petit accord, qui ne sera d'ailleurs pas exécuté, qui ne sera pas, comment dirais-je, respecté, qu'il faut aller en grève illimitée. Vous pensez qu'on va tout le temps attendre qu'il faut qu'un syndicat aille en grève illimitée pour qu'on te prenne au sérieux, pour qu'au moins on t'écoute? Ça, c'est quelle république?
Yuba Konaté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une exagération de la part de tous ces syndicalistes-là, hein, toutes ces grèves, surtout dans un contexte de crise dans notre pays?
Oui, bon, c'est dit que je ne pense pas. La crise, véritablement, s'il y a crise dans ce pays, ça concerne tout le monde. Je rappelle que les syndicats enseignants ont été en grève pour obliger le gouvernement à respecter les signatures du 15 octobre. C'est ça véritablement le problème. C'est pas comme si ces syndicats-là se battaient pour de nouvelles revendications, non.
Ils se battaient
pour qu'on applique l'accord qui le gouvernement avait signé avec eux le 15 octobre.
Qui respectent leur engagement.
Donc, du coup, vous voyez que moi avant-hier, hein, les syndicats anciens, ils étaient en assemblée générale et j'ai pu discuter avec certains, mais les gens, la plupart, sont sceptiques parce qu'ils se disent que une fois de plus, c'est de la poudre aux yeux et que cet accord-là, vous allez voir, ça va pas être appliqué, parce que véritablement, et les gens ne savent pas pourquoi. Le problème véritablement qui a constitué le blocage, hein, on a appelé ça au niveau du syndicat le point 4, c'était quoi? C'est spécifiquement par rapport aux sortants de l'UNSUP, qui à partir de 2002 sortaient désormais avec un master. Mm-hmm. Donc, ces gens, parce qu'ils faisaient la licence au niveau de l'université, ils faisaient le concours pour faire 3 ans à l'UNSUP, nouvelle formule. Mm-hmm. Donc, à partir de 2002, ces gens-là sont sortis massivement et sont venus. On a continué à les traiter comme de simples sortants de l'UNSUP. Alors que l'UNSUP, la formule classique, c'est 4 ans après le bac.
Oui.
Donc, ces gens qui avaient fait 5 ans après le bac, depuis 2002, ne sont pas pris en compte avec l'effectivité de leur diplôme comme à l'ISFRA et comme à l'INI. Donc, ils sont pris sur l'indice 360 toujours, donc comme sortant maîtrisant, alors qu'ils devraient être pris sur l'indice 420, comme sortant 5 plus bac plus 5. D'accord. Donc, véritablement, le combat est à ce niveau-là. Cette bataille-là n'est pas terminée.
On va laisser un peu la parole à la seule dame. Monsieur, vous n'êtes pas très galant. Tougoula Awasemega, justement. Est-ce que le gouvernement a les moyens de satisfaire, justement, toutes ces revendications-là, quand on voit les magistrats, ensuite les médecins, les enseignants? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les promesses faites par le gouvernement peuvent être honorées?
C'est impossible de nourrir toutes ces promesses-là. Parce que, c'est clair, il y a quelques satisfactions et quelques revendications qui peuvent être satisfaites, mais pas la quasi-totalité. Et je pense que vous avez parlé à un moment donné d'exagération de la part de certains syndicats. J'estime qu'il y a eu quelque part d'exagération, parce qu'on doit tenir compte également du contexte dans lequel se trouve le Mali. Vous avez dit que le Mali se trouve en guerre.
Oui,
oui, c'est clair que le gouvernement à un moment donné a mal géré le dossier.
Si on a une situation de guerre, ça doit se sentir partout.
Voilà, bien sûr. Il faut
que tout le monde de la République gagne quoi. Votre premier ministre l'a combien par mois? Votre
personne n'a responsé jusque-là quelque
personne
chose.
Personne n'a quelque chose, madame.
Oui, justement, la population également, les revendicants, que ce soit les médecins, les enseignants.
On dit que le premier ministre aurait déjà renoncé aux 17 millions d'installations.
Voilà, oh, 17 millions.
Ça, c'est politique.
Je pense sincèrement qu'il
y a... Non, mais même cela, à ce niveau, on a fait de la publicité pour le monsieur. Parce que les 17 millions auxquels il a renoncé, là, ça... les
c'est,
financiers.
C'est quand même pas rien.
Ouais, c'est pas rien. Ça dit que les financiers ont dit très explicitement que c'est une tradition qui est instaurée, mais qui ne repose sur aucun document administratif. Chaque fois qu'il y a un premier ministre, un nouveau premier ministre qui vient, on donne les 17. Lui, il a refusé. Mais entre temps, la même chose se passe au niveau de tous les départements ministériels. Mais c'est pas c'est, forcément c'est 17 ça, millions, mais il y a quelques millions
positif,
en jeu. Donc.
Hein, non, pas même, positif. Non, parce que le problème, c'est quoi? Il va falloir qu'il nous dise que lui, il va renoncer aux 75 millions que Modibo percevait par mois. Et vous dire à Issa Kassidibé également. Donc maintenant, moi, en tant que moi, Abdoulaye Idrissa Maïga, Premier ministre, j'ai renoncé à 17 millions. Je ne veux plus percevoir les 75 millions que Modibo percevait. Et Issa Kassidibé va renoncer à ses 35 millions par mois. Et Ibeka aussi va renoncer à son 1,8 milliard par mois. Et comme ça, on verra que nous sommes dans un pays en guerre.
En guerre. Et que voilà. Tout le monde fait des efforts. Que et à commencer par les premiers responsables.
Togola Ouassemega, est-ce que c'est une solution qui va
et qu'on respecte le quota, parce que nous, nous respectons quand même le quota sur ce plateau quand même.
Ça pourrait, justement, le quota n'est pas respecté. Je suis désolé, le quota n'est pas respecté sur le plateau.
Lui, le présentateur, nous sommes deux en avance.
On va parler.
Non, je pense que c'est clair. Il faut vraiment que chacun y donne. Comme ça, la solution.
On ne peut pas demander aux autres, faites des efforts,
Monsieur veut que nous soyons deux hommes contre deux femmes, mais je pense que le quota est respecté.
Mamadou Diadji Sakho, on a tendance à oublier justement ces pauvres enseignants du Nord qui subissent énormément, qui demandent une augmentation de leur prime de zone, également l'enseignement supérieur qui continue la grève.
Oui, mais peut-être il va falloir que ces enseignants du Nord soient de la plateforme ou de la CMA. Parce que tout ce que la plateforme demande là, c'est tomber tout de suite. Tout ce que la CMA demande, c'est tomber tout de suite. Donc, un jour viendra, s'ils vont accepter d'être la CMA ou de la plateforme là, et on va respecter leurs primes, parce que toutes les primes de la CMA et de la plateforme quand même sont payées.
Et moi, je pense que c'est vraiment de très bonnes guerres. Vous imaginez si quelqu'un enseignant à Gourma Rarous. On vient de faire la dernière attaque à Gourma Rarous. Un enseignant aurait pu banalement mourir.
Tout à fait.
C'est le minimum qu'on puisse vraiment accorder. Maintenant, quel est le montant de cette prime-là, je ne sais pas, mais moi je pense que c'est vraiment des bonnes guerres.
Vous pouvez comprendre
qu'on accorde quelque chose à ces gens.
Quelqu'un qui est de Gourma Rarous, il est, je ne sais pas, maire, celui qui devient le président des autorités intérimaires à Tombouctou. Et ça crée déjà un problème à Tombouctou. Il est toujours maire, c'est une grande incompatibilité.
Alors ça nous éloigne un peu de
notre
sujet.
Non, ça nous éloigne pas, c'est pour vous intéresser ce qui se passe au Nord.
Togola Ouassemega, quand on voit justement dans le cas de Gourma Rarous, qu'il y a quelques semaines, il y a eu un directeur d'école et 6 enseignants qui ont été assassinés, est-ce que c'est de bonne guerre, justement, pour ces enseignants du Nord de réclamer une prime de zone plus conséquente?
Non, ils ont parfaitement raison, parce qu'ils sont dans des zones vraiment à risque. Oui. Ils travaillent à risque et ils risquent de mourir à chaque fois, et le cas est arrivé. Non, je pense que le gouvernement devrait vraiment revoir la situation, particulièrement de ces enseignants du Nord, de tout le Nord et de l'ensemble du pays, mais particulièrement de ces zones vraiment en danger.
Alors, justement, il y a aussi ces enseignants du supérieur. Que va-t-il se passer justement à leur niveau? Est-ce que le gouvernement a des... Vous êtes journaliste, est-ce qu'on a des pistes de solutions déjà pour désamorcer la grève à ce niveau-là?
Oui, je pense qu'il y a des pistes de solutions, parce que ça commence à déjà aller avec le fondamental, le second cycle et tout.
Donc, aller en grève.
Moi, je sais, par exemple, qu'il y a des négociations...
Du moment qu'on nous a invité à chaque fois que vous ne partez pas en grève.
Monsieur, vous ne laissez pas Awa parler.
Si, on l'aime bien. Non, parce que quand elle parle, elle nous fait réagir.
Non, je pense que les grèves illimitées ne sont pas sincèrement, franchement, les solutions.
On nous a habitués à ça.
On oblige les gens à aller à ça. On oblige les gens.
On oblige les gens, mais à un moment donné, il faut savoir, il faut aussi que ces gens se lassent.
On ne laisse pas d'autres, on ne laisse pas d'alternative à aller à la grève. Parce que c'est... À ce point-là, simplement,
pas en grève illimitée, on vous prend pas au sérieux. C'est dommage, madame, mais c'est comme ça.
D'aller à ça. Moi, je pense que pour aussi qu'il y ait de l'enseignement supérieur, ils vont aussi trouver une solution. En tout cas, ne serait-ce que provisoirement, ou du moins par la suite de colmatage. De toutes les façons, ils vont reprendre et oser maintenant. Puisqu'on tire vers la fin de l'année, histoire en tout cas permettre à ce qu'on achève l'année académique.
Avec tous ces retards-là, est-ce qu'il est possible justement de sauver l'année scolaire maintenant,
même si elle est sauvée,
partout
ça va être vraiment compliqué. Et c'est justement ça le problème du système éducatif malien.
Ça s'est traîné, parce
que les années se chevauchent.
Je dirais au président de la République, parce que le Mali a tout le temps connu des années blanches quand lui dirige. Donc ça lui dit rien.
C'est arrivé une fois il y a très longtemps.
Bon, d'accord, et de toute façon, ça, tout commence par un.
Quand il était Premier ministre, il y a beaucoup d'années. Alors, je vous suggère donc de revenir continuer cette émission dans quelques secondes.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de suivre le forum de la presse du studio Tamani, Togola Awasemega de Kunafuni.com, Yuba Konate du Zénith Balé, Mamadou Diadje Sakho, Sax de RFM sont avec nous pour animer cette émission. Parlons à présent justement de la fête de travail de la journée mondiale de la presse. C'est dans ce contexte particulier justement de revendications syndicales que le 1er mai a été célébré au Mali. Yuba Konate, comment se porte justement le monde du travail au Mali?
Ah oui, c'est très mal, c'est sûr. Les grèves illimitées, les grèves à répétition disent assez long sur vraiment le moral du travailleur malien. Et vous avez vu lors de des festivités de la célébration, le secrétaire général de l'INTM a dit qu'ils vont faire table rase de l'ensemble des textes qui régissent même le monde du travail au Mali. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie tout. Il a dit clairement.
Alors, est-ce que vous pensez que l'entrée du syndicaliste Mahamoud Benkatra dans le gouvernement va
faciliter ce travail-là?
Que ça va faciliter ce travail-là?
Si, mais lui qui est déjà rentré dans le gouvernement, il est out. Non, il s'est fini ça. Lui, il est déjà. Il est out. Non, c'est fini. Il ne travaille plus avec le syndicat.
Parce que, entre-temps. La lutte syndicale pourrait justement éventuellement servir à désamorcer.
Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les médecins étaient en grève, la centrale syndicale a voulu rentrer dans la danse. Mais elle a vite sa menace cernée en nous proposant peut-être, même s'il y a eu des démentis après, un portefeuille ministériel.
Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, parce que de ce qu'on a appris dans cette histoire, en fait, c'est le syndicat lui-même qui a été floué, parce que c'est l'autre a proposé ses services en tant que spécialiste du monde du travail, tout ça, et entre-temps, au lieu de travailler au compte du syndicat, voilà, il était en train de travailler pour lui-même, voilà. Et le gouvernement est berné, parce que le gouvernement pense que son expertise.
On va revenir du côté de. Le Togola Awasemega,
c'est clair qu'il va quelque part apporter son expertise compte tenu des longues années qu'il a passées dans
son expertise pour qui, pour le gouvernement,
pour le gouvernement, pour le déblocage,
non, pour le monde syndical, il est out.
Non, il n'est pas out.
Est-ce que les fonctionnaires maliens sont exempts de tout reproche? On parle de corruption à tout bout de champ dans le monde justement du travail. Est-ce qu'ils ne sont pas également?
Non, c'est clair que les fonctionnaires ne sont pas du tout exempts de tout reproche, parce que il y a la corruption qui est là, la corruption ambiante qui est là, et quand tu vas dans un service, c'est clair, quand tu veux être aidé, on te pousse à, quand tu donnes, sans que tu donnes pas 2000 francs, 1000 francs pour qu'on te rende un service, ou quand tu as ton dossier au niveau des secrétaires et tout. Voilà.
Quand vous déposez votre dossier, vous savez ce que vous devrez faire. Le fonctionnaire, c'est ce qu'il doit faire.
Oui, c'est ça. Et c'est justement, c'est cette mentalité-là qui doit changer au sein de nos institutions publiques.
Mais Mamadou Diadje Sakho, justement, sur ce point, et sur le point également de la formation, est-ce que le défi de la formation, justement, dans le monde du travail malien, est-ce que la formation est adéquate aujourd'hui aux besoins qu'il y a sur le marché du travail?
Jean Baudin, un éminent économiste, disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes, et ces hommes doivent être valables et compétents. Mais c'est que le problème du fonctionnaire malien, à chaque fois qu'on est fonctionnaire, on fait de sa fonction une situation de rente. Comme Awa l'expliquait tout à l'heure, je ne peux pas comprendre que, comme le disait également ATT, quand vous amenez votre dossier dans l'administration, vous, en tant qu'un citoyen malien, vous savez ce que vous devrez faire. L'administrateur également sait ce qu'il devrait faire. Mais on attend toujours quelque chose.
Et l'autre problème fondamental qui se pose, quand vous allez dans les administrations publiques, vous voyez des tasses de thé, le thé est en train de se faire dans tous les bureaux, et quand tu t'adresses à quelqu'un, quand tu ne parles pas bambara, la personne ne te répond pas. Je suis désolée, mais quand... La majorité, quand tu vas dans les services, si tu sais des tasses de thé, ce qui t'acquitte, tu vois directement quand tu rentres. Mais je suis désolée, mais quand même, il faut un peu de
d'accord avec elle. Il va falloir également qu'on enlève tous les petits matelas
des dames qui se tressent dans des réceptions. Je suis désolée, mais il faut qu'on change.
Vous êtes d'accord quand même avec moi qu'on va se battre pour que également les bureaux soient transparents et qu'on enlève les petits matelas pour se reposer. Alors, le travail n'est pas fait pour se reposer.
La journée mondiale de la presse a également été célébrée cette semaine au Mali. Plusieurs activités, justement, tout au long de cette semaine. Mamadou Diadié Sakho, comment va le monde de la presse au Mali?
Très, très, très mal. J'ai très mal fêté cette semaine. Je n'ai jamais fêté une mauvaise semaine de la liberté de la presse au Mali. Expliquez. Une semaine qui s'est passée sans réellement un acte concret.
Il y a quand même eu des rencontres.
Birama, il est où? Il est où? Qui a parlé de cette semaine de Birama?
Nous, on en a parlé.
Madame, si on en a parlé, on devrait faire un sit-in. Aujourd'hui, qui est responsable de la disparition de Birama? Qui est responsable de la disparition de Birama? Vous pensez qu'on devait tenir qui est responsable aujourd'hui?
Alors, Birama Touré.
Si toute la presse malienne aujourd'hui s'est mobilisée, au moins quand même, on allait nous dire Birama, il est ceci, il est cela. Vous pensez que c'est comme ça que nous allons passer une semaine sans un confrère? Et que des journalistes sont enlevés, séquestrés dans ce pays-là? Il y a des gens qui profitent de cette situation?
Yoba Konaté, on a un dossier quand même assez chaud. Hein. Sax vient de parler de Birama Touré, notre collègue disparu depuis un peu plus d'une année. Il y a également le chroniqueur Raspatch qui a été mis aux arrêts un moment. Il y a ce fameux dossier Amimbe Cissé contre l'Assemblée nationale. Comment se porte le monde de la presse aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, est-ce que la presse malienne est libre? Réellement.
C'est-à-dire que nous sommes, en tout cas, si vous regardez un peu l'historique de l'évolution de cette presse-là, je pense que nous sommes plus en train de reculer que d'avancer, véritablement. Puisque quand vous prenez déjà les débuts du pluralisme des médias dans notre pays.
Rappelons qu'on est venu à peu près avec l'avènement de la démocratie.
Avec l'avènement de la démocratie et des hautes luttes. Parce que quand certains parlent aujourd'hui, j'écoutais un responsable du RPM la dernière fois, il donne l'impression comme si tout ça c'est à l'actif du RPM. Non. Il faut rappeler aux gens et aux autres que les médias, la liberté de la presse au Mali a été arrachée de hautes luttes. Donc ce n'est pas à l'actif d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est à l'actif du peuple du Mali. Et donc, c'est pourquoi, jusque-là, la résistance qui est là, c'est parce que les uns et les autres connaissent l'historique de cette liberté de la presse-là. C'est à cause de ça que nous avons un certain, comment dirais-je, certaines limites jusque-là. Sinon, c'est sûr qu'on aurait dépassé.
On doit éviter à ce que la presse devienne l'ennemi de la presse.
Togola Wasemega, est-ce que justement la presse malienne aujourd'hui fait honneur à cette lutte justement de 1991 pour arracher cette grande liberté d'expression?
Oui, je pense qu'elle fait honneur. Je ne suis pas du tout d'accord quand Yuba dit que la presse malienne n'est pas aussi libre que ça. Je pense déjà des plateaux comme ceci nous permettent vraiment de dire clairement, sans censure.
C'est pas ce que j'ai dit.
On ne recule pas du tout.
Vous n'avez rien dit sur ce plateau-là qui va faire mal à Abdoulaye Idrissa Maïga. Si vous le faites, demain, postez quelque chose qui va à l'encontre de Karim. Vous allez être inquiété.
Du tout.
Si,
du tout.
Madame, si.
Je suis désolé.
Je n'ai pas dit.
On n'a pas fini, okay. Mon ami.
Oui, je disais qu'on est relativement en avance comparativement à certains pays de la sous-région, de certains de nos voisins, parce que quand on voit les titres des journaux et tout, je pense que, sincèrement, la liberté d'expression est vraiment présente au Mali.
Madame, avec un confrère disparu.
Avec un confrère disparu. Justement,
la presse est une question. Mais c'est que nous sommes en train quand même de reculer un peu.
On a reculé. Vous fêtez une semaine de la presse sans un confrère, on ne vous dit même pas ce qui lui est arrivé, et le responsable est connu.
Qui est le responsable?
C'est l'État.
Alors, les enquêtes,
madame, c'est l'État.
Les enquêtes sont en cours.
Les enquêtes en cours, quand est-ce? Vous avez vu quelle enquête aboutir ici au Mali? Birama a disparu.
Alors, question,
celui qui est aujourd'hui le ministre de la Justice et qui est son avocat.
Question pour vous, Mamadou Diadié Sakho. Oui. Jusqu'où s'arrête la liberté de la presse?
La liberté de la presse n'a pas de limite pour moi. Pour moi, la liberté de la presse...
Est-ce que tout peut se dire?
Tout peut se dire. Il y a une manière de le dire. Tout peut se dire. Si vous volez, vous êtes un voleur. Si vous êtes un délinquant, vous êtes un délinquant. Si vous commettez des délits, vous êtes un délinquant. Si vous n'êtes pas responsable, vous êtes irresponsable. Donc tout va se dire, tout ce qui s'est fait, c'est dit. Du moment que tout va continuer à se faire là, tout va se dire, vous n'inventez pas.
On a souvent parlé de l'éthique et la déontologie journalistique, jusqu'où s'arrête justement cette liberté de la presse au Mali. Enfin, pas au Mali, partout dans le monde d'ailleurs.
Oui, c'est ça, elle doit être démise. Et je pense que pour tous, en tout cas journalistes qui a souci d'abord de lui-même, je pense que respecter l'éthique et la déontologie, c'est fixer lui-même, soi-même d'abord ses limites. De façon individuelle, c'est fixer soi-même des limites. Et pour le respect de soi-même et de sa carrière. Parce que si vous n'êtes pas crédible, si vous êtes reconnu comme, comment dirais-je, trafiquant d'informations, de trucs, les premières conséquences, c'est d'abord pour vous.
Moi, je pense que
ce combat-là est d'abord individuel et personnel. Les gens doivent mener ce combat pour eux-mêmes d'abord. Parce que c'est d'abord une question de crédibilité personnelle et individuelle. Si vous n'êtes pas crédible, vous menez un débat où vous écrivez, mais les gens ne lisent même pas.
On parle de la limite.
Vous aurez la parole dans quelques minutes.
Moi, je dirais que la liberté d'expression a une limite, parce que dans d'autres choses, ta liberté s'arrête où commence celle des autres. Il y a parfois des informations que tu peux avoir, et en respectant l'éthique et la déontologie, tu peux pas divulguer ces informations là, parce que quand tu le fais, ça peut créer des situations que toi-même on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc quelque part voilà, ça peut aller à amener des situations terribles.
Et l'autre problème
qui est là surtout, c'est la formation. Il y a un sérieux problème de formation des journalistes et des organes de presse au Mali, et il faut vraiment qu'on trouver une solution à cela.
Est-ce que le monde du journalisme justement est suffisamment professionnel?
La formation au Mali, elle est à tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux.
Parlons plus précisément justement de notre.
Mais on est le reflet de notre gouvernance. On est le reflet de notre gouvernance.
Notre société.
J'avais dit tout à l'heure. J'ai dit que la liberté d'expression n'a pas de limite. Toi, Diadié, tu ne dois pas être inquiété aujourd'hui pour ta pensée, pour ton opinion. Vous pensez qu'une opinion a une limite? Vous pensez que ce qui n'est pas, ce qui ne refuse pas de poser des actes, vous devrez vous empêcher d'en parler? Pour moi, cette attitude n'a pas de limite, madame. Vous, en tant que journaliste, vous ne devrez pas en parler.
Laissez-la réagir à vos propos.
Moi, personnellement, je pense qu'elle a des limites. Parce que parfois, tu peux avoir des informations. Toi-même, tu sais que si tu publies cette information, qu'est-ce que ça peut entraîner? Donc là, ça crée quelque part un blocage, une autocensure au niveau de ta personne même. Parce que tu te dis, quand tu fais ça, parce qu'un journaliste, normalement, il est éducateur, sensibilisateur. Et quand tu poses un acte, tu sais que cet acte-là va amener ceci, mais écoute, ta liberté s'arrête là. Tu te poses des limites.
Dernière question, Yuba. Est-ce qu'un confrère a écrit que les journalistes maliens sont divisés en plusieurs clans et que cela ne sert pas justement l'avancée de ce pays? Est-ce que c'est vrai?
Je crois qu'il y a un peu de vérité là-dedans. C'est vrai, bon, c'est aussi, c'est-à-dire ça a l'image aussi des intérêts des uns et des autres. Il y a de véritables problèmes à ce niveau-là. Et jusque-là aussi,
Est-ce que ça ne pose pas le problème justement du professionnalisme même des journalistes?
Oui, véritablement, non, il y a des efforts à faire à ce niveau. Je pense que même les instances de régulation aussi, tout ça, il y a des efforts que la profession elle-même doit faire pour continuer d'assainir. Parce que véritablement,
acharnement. Parce qu'entre temps, on n'a pas abordé la question. Hein, c'est aussi des questions de économiques. Hein, véritablement, on ne peut pas se cacher. Quand les gens sont continuent à être payés à 60 000 francs, ça crée de véritables problèmes.
C'est une dernière question. Sur ce volet, en 30 secondes, Sax, est-ce que les journalistes maliens sont corrompus? Très rapidement.
Bon, moi, on a 20 secondes. D'abord, moi, je ne suis pas corrompu. Je ne serai jamais corrompu.
Les journalistes maliens, en général.
Les journalistes maliens, je peux dire qu'ils sont corrompus parce que j'ai vécu le cas dans l'affaire ABC. J'ai vu des gens qui sont allés émarger et comment dirais-je, orchestrer l'enlèvement et la séquestration de leurs confrères.
Merci, mesdames, merci, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci, Togola Hawa Semega, Yuba Konate du Zénith Balé, Mamadou Diadje Sako était avec nous. Merci. L'émission est une réalisation de Ibrahim Randjalo. Salim Djouara était à la mise en onde. Gagné Kanté à la régie vidéo. Bon week-end. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo de Mandé.
Chenne Berry.